VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence avec les toutes dernières violences en Centrafrique. À Bangui, des affrontements entre habitants et membres de groupes d'autodéfense ont éclaté mercredi soir dans le quartier musulman du PK5 après la mort d'un civil tué par une milice. Les accrochages continuent ce jeudi. L'ONG Médecins sans frontières a fait état ce matin d'une dizaine de blessés. Et le porte-parole de l'ONU, Vladimir Monteiro, confirme les violences en cours. Des coups de feu ont été échangés dans la nuit jusque vers 9h heure locale, 8h du matin temps universel, et nous avons envoyé des patrouilles dans le quartier, a souligné le porte-parole de la MINUSCA, la mission de l'ONU sur place. Les échanges de tirs ont repris au PK5 vers 11h heure locale, les rues sont désertes et les commerces sont fermés d'après les habitants. Et on sait à toujours, le gouvernement centrafricain affirme que des progrès ont été faits en vue de la levée de l'embargo de l'ONU sur les armes, conformément aux dispositions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Morgan Guillet nous en dit plus.
Des officiers supérieurs et des officiers subalternes de l'armée ont été informés sur la gestion et le stockage des munitions et armes en ce qui concerne les armureries. « Nous sommes prêts », a déclaré le porte-parole du gouvernement Ange-Maxime Kazaghi. D'après lui, les progrès actuels dans la mise en œuvre du programme de désarmement s'inscrivent dans le cadre de la levée de l'embargo sur les armes à destination de la RCA. La mission de l'ONU en RCA, la MINUSCA, a rappelé que le Conseil de sécurité avait adopté un chronogramme en janvier demandant à la République centrafricaine de fournir en juin un rapport sur les progrès enregistrés dans le cadre de la gestion ainsi que le stockage des armes. Le Conseil a déjà accepté des demandes de levée partielle, permettant ainsi à la Russie et à la France de fournir des armes aux FACA, les forces armées de la Centrafrique.
Au Soudan voisin, les leaders du mouvement de contestation qui a chassé du pouvoir le président Omar al-Béchir sont parvenus à un accord sur la transition avec le conseil militaire qui dirige le pays actuellement. Cet accord porte sur une présidence alternée de la future instance chargée de diriger la transition pendant 3 ans. Pour en savoir davantage, Eric Maningakiza a joint à Khartoum, la capitale soudanaise, un journaliste qui a requis l'anonymat.
J'ai sous la main le brouillon de cet accord.
Quelle est la chance que vous donnez à cet accord pour la suite de la transition?
Je ne suis pas optimiste parce que l'un des membres du conseil militaire de transition a déclaré avant-hier qu'il n'acceptait pas la composition d'une commission indépendante sur les tueries du quartier général de l'armée soudanaise, tandis que cette clause de commission d'enquête est l'une des 3 parties de l'accord annoncé par le médiateur qui est le représentant de l'Union africaine à Khartoum. Donc c'est le partage du haut pouvoir entre civils et militaires, la composition d'un conseil des ministres de civils par les forces de liberté et de changement, et troisièmement la composition de cette commission d'enquête sur les tueries. En fait, l'accord trouve beaucoup d'opposition, même dans les forces de liberté et de changement. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur les clauses déjà annoncées de cet accord. Généralement, c'est positif.
Et quelles sont les raisons qu'ils avancent, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce document?
Les activistes demandaient un gouvernement totalement civil. Et maintenant, c'est un partage entre civils et militaires. Le Haut Conseil qui va gouverner sera partagé entre les militaires et les civils, tandis que les révoltés demandaient un gouvernement civil.
Et comment réagit la population? Apparemment, la population est satisfaite.
Le premier jour après l'annonce de l'accord, c'est-à-dire samedi, il y avait des manifestations. Ils étaient heureux d'avoir cet accord après toute cette période d'agitation, de problèmes de sécurité et tout ça. L'opinion publique est pour l'accord.
Vous êtes activiste. Est-ce que vous pensez que l'engouement à cette révolution, que la flamme est toujours là ou la flamme a baissé d'intensité?
La flamme est là et surtout hier, l'Internet a été revenu au Soudan, et les activistes échangeaient des vidéos qui montraient les atrocités qui ont été commises durant la frappe du sit-in du quartier général. Il y a des atrocités terribles. ces vidéos qui circulent. La force principale de cette révolte est la jeunesse.
Donc la jeunesse reste mobilisée, c'est ça?
La jeunesse était toujours mobilisée, elle a resté mobilisée, même pendant la période de coupure de l'Internet, à travers des messages de téléphone SMS, à travers des visites de maison à maison, à travers des réunions. Mais le retour de l'Internet leur a donné l'occasion d'échanger ces idiots, des tueries qui ont été commises.
Joint à Khartoum, un journaliste soudanais qui a requis l'anonymat.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
République démocratique du Congo, le représentant de l'Union européenne et RDC a publiquement accusé mercredi Lambert Mende, l'ex-porte-parole de l'ancien président Joseph Kabila, de déni de démocratie, justifiant ainsi les sanctions de Bruxelles à son égard. Plus de détails avec Eddy Isango.
Encore une fois, les élections au Sankuru en RDC sont annulées. Encore une fois, Lambert Mende fait obstacle et justifie les sanctions imposées à son égard par l'Union européenne, a posté sur Twitter Guillaume Chartrain, premier conseiller de la délégation de l'Union européenne. Nous serons vigilants quant aux décisions prises à la suite de ces nouveaux dénis des démocraties locales, a ajouté M. Chartrain. Lambert Mende est candidat au poste de gouverneur dans sa province du Sankuru. La consultation des députés provinciaux prévue hier a été reportée au 20 juillet. Le Sankuru est la dernière des 26 provinces où l'élection du gouverneur n'a toujours pas eu lieu. Initialement candidat unique, M. Mende, ancien porte-parole du gouvernement, avait saisi la Cour constitutionnelle contre la réhabilitation de son rival Joseph Stéphane Mukumadi. La candidature de ce dernier avait été invalidée puis rétablie sur décision du Conseil d'État.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Niger, au moins 11 personnes sont mortes ce jeudi lors du naufrage d'une pirogue qui les transportait sur un cours d'eau près de Maradi, dans le centre-sud du pays, non loin du Nigeria. L'accident a eu lieu à Tibiri, a déclaré Zachary Oumarou, le gouverneur de la région de Maradi. Il y a aussi 3 ou 4 passagers de la pirogue qui ont disparu, a souligné une source locale en précisant que le drame s'est produit sur le Goulbi, un cours d'eau temporaire qui prend sa source au Nigeria voisin. Pendant la saison des pluies, le Goulbi interrompt les communications, obligeant les habitants à emprunter de petites embarcations pour aller d'un endroit à un autre, a souligné un autre habitant. Burkina Faso, maintenant, signature à Ouagadougou d'un accord de coopération transfrontalier entre le Burkina et le Niger. Le document signé dans la capitale burkinabé mercredi porte notamment sur la sécurité et le développement. Raïssa Girondin.
C'est un accord de coopération dans différents domaines, dont la sécurité, l'agriculture, l'élevage, l'environnement, la santé et l'éducation. D'après le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry, qui a signé ce texte avec son homologue nigérien. D'une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction, cet accord permettra de mettre en place de façon concertée des projets de développement qui couvrent les espaces qui sont voisins et parfois même avec les populations. Ces populations qui appartiennent aux deux pays vont avoir une vie en commun, un développement en commun et une perspective d'avenir en commun, a réagi le chef de la diplomatie nigérienne, Kala Ankwaru, saluant un accord original. Ces deux pays pauvres du Sahel sont confrontés à des groupes islamistes et du banditisme et partagent un millier de kilomètres de frontières poreuses.
Pour terminer, l'actualité américaine, le président du Liban, Michel Aoun, a fait part mercredi de son regret au lendemain de l'annonce de sanctions de Washington contre des élus du mouvement chiite libanais Hezbollah. Les détails avec Irénée Armand-Numbo.
Le Liban regrette le recours par les États-Unis à ce genre de mesures visant des députés élus, a indiqué Michel Aoun dans un communiqué. Le premier ministre Saad Hariri a pour sa part souligné que ces nouvelles sanctions visant le Hezbollah représentent un tournant du fait qu'elles touchent des députés. Les sanctions américaines ont été vivement condamnées par le chef du Parlement libanais, Nabi Berri, selon qui elles s'apparentent à une agression contre la Chambre des représentants et certainement contre le Liban. Les États-Unis ont annoncé mardi des sanctions contre 2 députés du Hezbollah, Amin Chéri et Mohamed Hassan Rad, accusés d'exploiter le système politique et financier du Liban au profit du Hezbollah et de l'Iran. Ils ont également sanctionné Wafik Safa, chef de l'appareil sécuritaire du Hezbollah, allié de l'Iran et considéré par Washington comme une organisation terroriste.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.